qui permet. Et c'est un grand texte, mais c'est aussi une épreuve terrible pour celle qui interprète. Et ça a l'air de rien, mais pour moi qui vais fréquemment faire, je suis bouleversé par la capacité de l'acteur à se figer et incarner un texte si terrible et redoutable. C'est une prouesse de l'exceptionnelle. Vous avez tout dans ce texte, toutes les peurs qui sont les nôtres, les peurs extrêmes qui sont celles de notre temps, de notre civilisation. À écouter ce texte encore une fois, je l'ai écouté plusieurs fois, mais à l'écouter ce soir, il me semblait que peut-être d'autres fois, vous voyez en contrepoint l'univers minimaliste, à savoir le sentiment que de la destruction allait naître de nouveau. Une existence que Dieu est. L'appel à l'Apocalypse, l'appel à Dieu est quand même très fort dans ce texte. Pourquoi l'as-tu abandonné? Il y a toute une trame apocalyptique qui est importante. Cette trame qui permet de voir que dans le désespoir, il y a l'espoir d'une renaissance. Même si finalement, et c'est ce qui est dit dans ce texte, l'existence n'avait pas trouvé sa place dans les temps. Comment l'être n'était pas capable de combler l'appel intérieur, le volume intérieur, combien la peau n'était pas suffisante, et c'est un peu ça la dépression. Se sentir mal l'être dans sa peau. Je me souviens en écoutant ce texte, un grand dépressif qui m'a parlé aussi de son trouble intérieur en disant j'ai l'impression d'être un ermite. D'habiter une coquille qui n'est pas la mienne. C'est un peu ça pour faire la peine, d'habiter une coquille qui n'est pas la sienne. C'est l'écart qu'il y a entre les temps et l'existant, ce trouble de l'être, être ou ne pas être. Et puis il y a une dimension aussi qui nous ramène à notre époque. À écouter ce texte, j'ai pensé à de l'humour. Vous l'avez sans doute lu dans ma lettre à la civilisation du 16e et 17e siècle. Qui nous dit combien entraîné par un discours eschatologique chargé de fatalité, le monde occidental a eu peur de lui-même et est devenu fou au point de massacrer, de détruire au nom de la naissance et d'une résurrection. C'est collectivement que la psychose s'est allée se propager. Notre temps est aussi un peu dépressif, il est moins torturé. Il est fait la Renaissance, mais il est un peu dépressif. Nous avons peur. Nous avons peur de nous. Nous avons peur de ne pas nous retrouver. Nous avons peur de notre identité. Il y a une communauté de peur entre le dépressif et celle de notre époque. C'est le plus affreux, le plus étrange. Et ce n'est pas une société en train de glisser comme elle dans une dépression. Il faut croire à la manière de voir 600 ans. Il n'y a pas de propos qui sont plus désespérants que les propos de l'actualité. Où le temps est censé être arrêté pour toujours, où le progrès empêché, où l'avenir de nos enfants sera plus triste que le nôtre, on noircit le but du futur de façon terrible comme peut le noircir le dépressif. Pourquoi notre peuple est-elle peur d'elle-même? Pourquoi notre peuple ne serait-elle pas l'avenir? Pourquoi sommes-nous dans une dépression collective? Finalement, la connaissance du dépressif peut nous aider à comprendre ce qui se passe. Plutôt que d'être effrayé, il faut lui voir ce qui se trame. D'où l'intérêt d'analyser le mécanisme de la peur. La peur, c'est une émotion. Une émotion n'est pas la sensation. La sensation n'est pas orientée vers la peur, ou vers l'angoisse, ou vers la joie, ou vers la satisfaction. La sensation est. Elle est initialement ineffable. Elle est ni bonne ni mauvaise, elle est douloureuse ou plaisante, et pas davantage. Le premier contact à la vie chez le nourrisson est un contact à la sensation, qui le sommaire d'ailleurs, puisque ce qui fait la particularité du bébé-dôme, c'est d'être particulièrement compétent au niveau de la sensation et d'être incompétent au niveau moteur. Le petit homme perçoit le monde sans pouvoir l'organiser. Il a des sensations, il n'a pas les moyens de maîtriser le monde qu'il ressent. C'est pourquoi il va se caler sur un autre qui le satisfait, sur un faible qui le soulage de ses agressions de l'extérieur ou de l'intérieur, et ce faible, c'est le faire maintenant. Il va se passer quelque chose d'étonnant, d'essentiel dans la construction psychique, et qui nous poursuit tout au long de la vie. C'est que nous allons apprendre à lire le monde en regardant l'expression de la mère au regard du monde qui nous environne. On percevra le monde en percevant l'expression qui lie les sensations qui nous sont propres à celles de notre mère. Que voyant enfin dans le regard de sa mère, disait le Nicot, il se voit. Il ne fait pas que se voir, il voit le monde. Il voit le monde dans lequel il est plongé. Il associe l'unique à une sensation. La nuit, ça peut être une nuit d'effroi, de panique. Ça peut être une nuit de joie. Il ne sait pas ce qu'est la joie, il ne sait pas ce qu'est l'effroi. Mais il associe la sensation dont il est témoin à la nuit. C'est l'essor de l'émotion qui s'enracine ici. C'est une association entre une sensation et une expression qui est étrangère à l'enfant. Il perçoit les premières expressions de sa mère et y associe ses sensations. La discrimination qui s'opère va nous faire naître l'émotion. Et ça, c'est un point important. L'émotion naît de l'expression. Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'expression qui naît de l'émotion, c'est l'inverse. C'est l'expression qui fait naître l'émotion. D'ailleurs, pendant très longtemps, l'enfant va contrôler son émotion en utilisant l'expression. On dit de lui que c'est un remarquable comédien, puisqu'il vient du comédien, du mauvais comédien. La capacité de faire naître l'émotion à partir de son expression. Il exprime la colère et se met tout d'un coup en colère. Il exprime la douleur et se met tout d'un coup à avoir mal. Il exprime la satisfaction et est satisfait. L'émotion chez l'enfant, avant l'âge de 4 ans, est précédée de son expression. Avant, il n'y a que sensation. Il a besoin de la fixer dans une expression pour l'objectiver, pour y voir l'émotion. C'est un point capital qui va se compliquer du fait que l'expression va se figer dans une forme. Elle cesse d'être des mimiques, elle cesse d'être de la portée du sujet lui-même, à la portée du sujet lui-même, elle devient une expression contenue et disciplinée. Et plus l'expression devient collective, plus elle devient étrangère à celui qui l'exprime, plus elle s'éloigne de celui qui est immédiatement, qui a immédiatement confronté à la sensation, plus l'enfant perd la capacité de contrôler son émotion par l'expression. C'est la grande révolution de l'écriture, par exemple. L'écriture met à distance l'émotion de l'expression. Elle inverse le processus. L'écrit permet de faire précéder l'émotion, l'expression par l'émotion. Et l'enfant fait d'être un comédien à l'âge de l'exemple, à l'âge de l'acquis à l'écriture. C'est une révolution psychique, l'écrit. Tant qu'on veut toucher au plus près de l'émotion, de la sensation, on est dans une expression qui précède l'émotion. C'est ce qui va se passer chez Sarah Kent. Elle donne un cri, un peu comme celui de Tramon. Elle donne un cri au plus près de la sensation d'un clivage entre son étant et son existant. Et ce cri qu'elle donne au plus près de sa douleur la submerge et fait éprouver plus de douleur encore. Elle est prise dans une spirale qui n'a pas de fin, si c'est la mort qu'elle s'étonnera 3 semaines après avoir écrit ce texte. Et c'est ce qui se passe dans notre société. L'expression prend le dessus fonction de l'instruction, on peut le voir immédiatement, ne plus mettre les clignotes comme surface de protection, ne plus faire la parole, ne plus faire parler, ne pas couper, ne plus faire les fonctions politiques. On donne à voir, on ne donne plus à penser. C'est le temps, on n'est plus dans les appellements de notre manière de mettre en mots, parler, crier, sans les nôtres, pour en être appelé. On ne donne plus à penser, on donne à voir, c'est ce qui risque de propager la télévision. Il y a encore quelques années, à la télévision, quand il était question de phénomènes de société, on avait été quelques experts qui dissertaient sur les phénomènes de société dont on voulait parler. Aujourd'hui, on a des grands témoins. On ne peut plus la réalité. On ne peut plus l'espace entre la réalité et ce qu'on est capable d'en dire. L'expression d'un côté au plus proche de la sensation. Et en faisant, elle devient un gouffre qui peut nous ensevelir. On ne sait plus mettre à distance. Les peuples qui sont les nôtres sont celles de notre manière de nous porter, de relater le monde au plus près, au plus immédiat, au plus accessible, au plus rapide. En matière de justice, c'est effrayant. Il faut faire et penser avant même d'avoir jugé. Il faut agir et réagir au plus près de l'homme, de la sensation et de l'émotion. Cette perte de capacité collective à mettre à distance, à faire un récit qui contrôle l'émotion, qui la contient, qui lui donne une signification, risque de nous entraîner vers des paniques terribles, des paniques collectives. On est dans une situation de rupture classique. On ne sait plus mettre en mots de façon codifiée suffisamment. Les adolescents L'adolescence commence par une crise s'apparente, laissant sa crise dépressive. Pourquoi cette dépression? D'abord parce qu'il y a une rupture physique. L'adolescent commence à l'âge de 12 ou 13 ans par des mots qui étaient habitués à raconter le monde qui était celui de l'enfance, qui tout d'un coup doivent être utilisés pour raconter les personnes adultes. C'est une rupture dans la capacité de mettre en mots l'adolescence. Les mots qui étaient ceux de Goldorak, des contes de fées, Harry Potter, doivent tout d'un coup servir à dire les personnes adultes. Il y a un inconfort à manier la langue, puis l'adolescent. Cet inconfort ne peut s'amoucler, à racler, à grogner. On dit de lui qu'il traverse l'âge bête. C'est là qu'il ne sait plus mettre en mots ses émotions, parce qu'elles sont devenues étrangères. On est dans une structure lexique. Cette structure lexique chez l'adolescent entraîne une structure de confiance dans ses images matérielles. C'est le confort idéal que pourraient être ses parents. Il sait de l'idéaliser, il est surpris en étant de mauvaise foi quand il prétend y être, conforme à ce que vous imaginez qu'il pourrait être. Il sait de penser que son père est ce héros et que sa mère est dans ses pendres. Et il saisit toutes les occasions de rappeler à sa mère qu'elle est dans ses pendres et à son père qu'il n'est pas héroïque. Pourquoi? Parce qu'il met en doute les mots qui était laissé autrefois pour raconter l'égoïsme de son père et la douceur de son âme de sa mère. C'est une crise de langage. Ça donne une crise surprenante, ça donne le silence, le grognement, ça donne aussi une extraordinaire inventivité des mots. Les langues, la langue comme toutes les langues, n'évoluent pas grâce aux académiques, elles évoluent grâce aux adolescents. C'est les adolescents qui, à chaque génération, refondent les langues. Et dans ce mouvement de structure lexicale, ils ont un langage à inventer qui sera le leur, qu'ils vont codifier entre le moment où ils se sont capables et le moment où ils sont en rupture de lexique. Ils sont sujets terriblement à une expression qui est échappée de tout contrôle, qui est indisciplinée, qui est dominante, qui est intrusive. C'est pourquoi ils sont plus exposés que d'autres à l'effacement et à l'effondrement dépressif. Ils peuvent se prendre au mot qu'ils disent, les adolescents. Quand ils disent la tristesse et qu'ils la hurlent, ils peuvent enfouir la tristesse qu'ils éprouvent en eux. C'est pourquoi ils sont plus que d'autres soumis à l'émotion qui emprunte les formes de l'expression plutôt qu'à l'émotion qui traduit par l'expression. Ils se laissent piéger par leur propre mot. Et ceci d'autant plus qu'ils refusent de réfléchir sur leur avenir. L'avenir de l'adolescent est incertain. Non pas parce qu'il craint son futur, mais parce qu'il craint de regarder son passé. Son passé est un champ de ruines puisqu'il ne sait plus le mettre en mots. Il n'a plus de certitude, c'est plus instable que ça l'était. Ses parents qui lui semblaient des figures de sécurité totale, ou des figures qui ne le sont plus. Ce père héroïque qu'il imaginait, cette mère douce et calme qu'il imaginait, ne sont ni douce et calme, elles ne sont plus, comme le disait Sartre, dans le flagrant délit de mauvaise foi. Et tout son passé, je dirais, toute sa capacité de mettre en mots son passé, est troublé, il ne sait plus se faire un récit de ce qu'il a été. Ça l'empêche d'avoir un avenir. Pour que les choses adviennent, il faut regarder son passé. Il faut avoir de la mémoire, une cohérence entre ce qui a été et ce qui doit devenir. Pour qu'il y ait un avenir, il faut un regard sur le passé. C'est ce que les soufis se disent en exprimant ce vers qui est merveilleux. Nous avons le passé derrière nous, le futur derrière nous et le passé devant. Pour qu'il y ait un avenir, il faut qu'il y ait un regard sur le passé qui puisse se mettre en mots. Il ne faut pas être amnésique de son passé. On peut ne pas avoir de futur et craindre le futur. On peut craindre la protection. Et craindre son avenir, c'est tout autre chose. J'en veux pour preuve de cette expérience clinique assez récente qui m'a profondément bouleversé. Je rencontrais un adolescent qui venait contre son mari. quand il commence à s'étaler de tout son long, il me fait comprendre qu'il n'avait rien à faire d'être près de moi. Il était provocateur et savait pouvoir obtenir tout ce qu'il exigeait. Il me dit, mais pourquoi tu trembles? Je te fais peur. Alors je lui dis, non, je trembles pour deux ou trois raisons, je n'ai pas peur de toi. J'ai peur de tout un tas de choses. Il me dit, mais de quoi tu as peur? Et je lui ai dit, parce qu'il faut s'exposer dans ce cas-là, de quoi j'avais peur. Je lui ai dit, j'ai peur de mon futur. Je suis malade, j'ai peur de mon futur, parce que j'ai peur de ce qui m'attend et de la dégénérescence. Il n'a pas très bien compris, mais il a compris, j'ai peur de mon futur. Et je lui ai dit, toi, de quoi tu as peur? Il dit, moi, c'est la même chose, j'ai peur de mon futur. Il a commencé à parler de ses peurs, de ses frayeurs, de ses frayeurs. Et j'entendais plus me parler que ce n'était pas de son futur dont il avait peur, c'était de son avenir. Et ça change tout. Nous autres adultes, on peut avoir peur de notre futur, on n'a pas peur de notre avenir. Peur de son avenir, c'est peur de ne pas retrouver le lien qui unit ce passé au présent. Ça lui dit un peu aussi que ça ne peut pas être. On ne regarde pas suffisamment son passé. On voudrait que tout ce soit pour radicalement nouvelle. On se fait une croyance trop forte sur le progrès. On n'est pas suffisamment chargé de mémoire. On se décharge de la mémoire. C'est pourquoi on ne se donne pas l'avenir. Les formes culturelles qui nous envahissent aujourd'hui, qui sont des formes humaines, sont des formes immédiates, elles sont amnésiques. Elles n'ont pas de passé. Quand elles ont un passé, il est réfuté. J'ai été, pour tout vous dire, ce n'est pas du tout une exception politique, ceci. Mais c'est une simple remarque sur un propos politique. La remarque de carrière de psychanalyse. J'ai été choqué par la propos présidentielle qui me dit je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé au moment de l'inclusion de la Grèce dans l'Union Européenne. Je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Je pense que c'est le contraire qui fait les grands hommes politiques. C'est quand ils se sentent comptables de ce qui a été et assurés de ce qui a été pour diriger vers un avenir, mais avec les cataclysmes. De Gaulle n'était pas responsable de ce qui s'était passé, ce qui avait conduit à la débâcle. Mais il a eu le souvenir et l'enracinement suffisamment profond pour savoir que la France humiliée n'était pas la France pour toujours et qu'elle pourrait renaître de son humiliation. C'est chercher dans le passé la sécurité suffisante pour se construire à l'avenir qui fait la force de pouvoir le regarder, malgré l'adversité. On ne sait plus se regarder parce qu'on ne sait plus regarder profondément en soi. Dans les adolescents, on est une société qui est malade de fonctionner comme des adolescents, figés sur son présent, incapable de capituler à leur passé pour nous poursuivre dans un avenir. On se fait peur. Et à bien des points, à bien des aspects de notre société s'apparente à celle des adolescents. Tout le fait qu'on les ignore et qu'on leur fait la guerre. On est malade des adolescents parce qu'ils donnent d'eux-mêmes une image effrayante, exagérée, excessive. On a des coups d'adolescents, on est comme le plus par des images, on se nourrit d'images, on est gourmand d'images, plus d'images que de pensées, et donc c'est un vrai de leur fonctionnement. C'est un fonctionnement qui se généralise. On a un génisme qui est assez inquiétant. Qui nous rend malades quelquefois. La société se perd quand elle sent amnésique, se perd quand elle préfère la réaction immédiate à la quête de signification et de sens. La réaction immédiate, c'est la réaction à l'émotion, à l'expression de l'autre qui en est donnée. La quête de sens et de signification, c'est ce qui se mesure à l'aube de son passé et de se demander qu'est-ce qui est difficile de faire au regard des principes sur lesquels on est formé. Je vous dis ça par exemple en matière de criminalité. En matière de criminalité, on obéit aux règles de l'émotion immédiate. On veut une justice qui s'apparente à une vengeance. On oublie que nous avons des règles éthiques pour lesquelles notre civilisation est fondée, qui sont fondamentales, qui datent de Saint-Augustin, qui ont des millénaires. Et on n'a pas le droit de les compromettre, ces règles sur lesquelles on est fondée, en compromettant, en ayant une seule motivation, celle de satisfaire la pensée immédiatement promue en nous par la vocation affreuse de crime et de délit. Se laisser piquer par l'image, se laisser enfermer dans les actions brutes, se laisser enfermer dans une réflexion collective qui est tout à fait inquiétante, c'est le nouveau malaise dans la civilisation. Freud a parlé dans l'aide à la civilisation d'un écart insondable qu'il pouvait y avoir entre l'esprit. Dès lors, on le contraignait à son renouvellement. Et ce qui campait dans son ouvrage remarquable, c'était l'époque de vie qui était celle d'un excès de renouvellement. L'on est tombé dans le versant inverse. On ne renouvelle plus rien. On veut tout montrer, tout. Pour faire voir, exhiber. Et ce défaut de renouvellement, c'est mettre des pathologies nouvelles qui ne sont pas celles de Freud, la bonne manière d'être en hystérie, et qui sont la perversion de la dépression. La dépression surtout. Et ça, c'est inquiétant. C'est un nouveau malaise dont il faut enfin écrire les bases pour s'en libérer, s'en éloigner. Je vous remercie.
Maintenant, nous allons donner la parole. Nous allons vous donner la parole pour poser des questions à M. Zouraïba sur ce qu'il y a de nous bien par rapport à notre société. La première qui doit être difficile. Comme on disait la dernière fois, on va prendre la deuxième.
Je vais vous poser une question en ce qui concerne l'image et la violence qui donne le mal et l'impact en fait de tout ce qui est les images de la vidéo. Là, le point de vue du psychiatre dire qu'effectivement c'est important de confronter les enfants à la réalité de la vie. Et je trouve que c'est pas du tout la réalité de la vie. Et au contraire, on est en train de fabriquer une génération de jeunes qui rentrent dans un schéma de violence dont on va être le même. Donc je voulais savoir ce que vous en pensez par rapport à cette plaque de l'image en termes de vidéo et de violence extrême.
Alors moi je trouve ça inquiétant, je ne voulais pas comme le font certains psychiatres le rapport à l'image. Mais je trouve très inquiétant le rapport à l'écran. On a décrit une période très archaïque, le stade imaginaire, où l'enfant en a pour s'adapter au monde que la possibilité d'en vivre le contenu sur le reflet, que le monde peut avoir dans l'image de sa mère. Je suis sa mère comme un écran. Je vous donne une image, une allégorie. Imaginez que vous soyez dans une forêt profonde. Près d'ici en cette saison, et que vous imaginez que vous entendez dans la forêt une bête qui peut être effrayante. Pour être craintif et sanglier, vous allez être effrayé. Vous allez vous questionner sur ce qui peut faire ce bruit. Et puis vous allez vous rassurer en voyant une forme blanche. Ça ne peut pas être sanglier, c'est un chien. Vous êtes rassuré. Et si vous voyez apparaître un épanouir, vous êtes totalement rassuré. Vous avez donc fait fonctionner votre capacité de rappel, c'est-à-dire pouvoir lier ce qui est à ce qui a été. Le nourrisson n'a pas cette capacité de rappel. Ce qu'il mémorise, il ne se rappelle pas de ce qu'il n'a pas mené. Pour se rassurer, il a besoin du visage de sa mère. La mère est avec lui, elle le tient dans ses bras, elle se promène. Elle entend un bruit dans le furet, elle s'inquiète, Et puis, elle voit dans le furet, du furet sortir une tache blanche. Elle est moins inquiète, elle est moins inquiète. Et puis, il voit la tache, elle voit la tache blanche sortir dans la tête d'un épanoui. Elle est tout à fait rassurée. Il lit le monde, non pas aux sensations immédiates, mais à la réaction de sa mère vis-à-vis du monde. Sa mère lui sert d'écran. Vous avez des adolescents qui se plongent dans une relation au monde comparable. Ils ont besoin que le monde leur soit raconté par écran interposé. Et c'est une addiction terrible. Qu'elle soit violente ou pas, c'est une addiction terrible. C'est une addiction terrible parce qu'elle fait croire, c'est le monde imaginaire, que le monde a la dimension de l'écran, et que hors de l'écran, le monde n'a pas d'importance. On peut mourir dans l'écran, donc pourquoi ne pourrait-on pas mourir? Ce qui s'est passé récemment dans cette folie insensée, un service de psychologie via le Canada, qui proposait des consultations interatlantiques à des jeunes gens en France, là, s'est suicidé devant son thérapeute par webcam interposé. C'est tout à fait terrorisant, parce que c'est très régressif. C'est un univers dans lequel le signe prévaut sur la réalité, ou l'imaginaire prévaut sur le réel. Et ça, cette vie de violence ou pas, c'est effectivement une réduction d'une addiction extrêmement grave. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut négliger et banaliser. Vous avez des adolescents qui sont dans leur bulle symbiotique, comme ils étaient autrefois, protégés par leur mère et incapables de différencier la bulle dans laquelle ils évoluent de la réalité. Donc, je me souviens de ce que vous dites, c'est extrêmement grave, et pas uniquement dans le terme de la violence. De façon générale, ce rapport biaisé au réel, parce qu'il est passé par le filtre d'un écran qui rend le contact au réel subordonné à un contact à l'imaginaire.
Merci. J'ai une question.
J'ai un certain âge et je me perçois dans un siècle en un des jubilés de l'espérance financière. Je me pose la question si les jeunes, nous sommes une partie de notre terre, 30% de l'âge assez avancé, je vois une artiste de noir pour la société caribe, les jeunes de l'État, et je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à nous les anciens de cette génération, pour nos jeunes qui nous portent, pour nous, pour nous, pour nous.